Je vous souhaite une belle journée et je vous conseille tout de suite d'écouter Colline Robert qui est avec nous. Bonjour Colline.
Bonjour à vous. Alors je vous préviens, cette chronique est placée sous le signe de l'information, de définition, de mots d'actualité. Voici donc ma chronique dictionnaire. Pénétrons dans le vif du sujet avec le verbe branler. Aux multiples significations, ce terme est aujourd'hui au cœur d'un scandale politique sans précédent et pourtant personne n'ose l'employer en public sur une antenne. Simple prévenance ou peur de l'offense. Qui sait ? L'usage vulgaire de ce terme fait disparaître ses autres significations et rend tout le monde gêné. Dans les médias, les journalistes et commentateurs parlent prudemment au sens propre du terme. Alors que bon, clairement, ça fait partie du quotidien des Français, que ce soit dans leur vocabulaire ou leur technique d'endormissement. Contraction de brandeler, qui voulait dire agiter, secouer dans l'ancien français, ce verbe transitif signifie avant tout osciller, bouger dans un sens et dans l'autre. Il apparaît au XIIIe siècle et est utilisé à l'origine sous forme déverbale pour nommer une danse, le branle. De tradition populaire et collective, elle se danse en rond ou en chaîne. Les danseurs se tiennent la main et balancent les bras dans un sens ou dans l'autre. Et selon Saint-Simon, l'écrivain du XVIIIe siècle, cette danse ouvrait et fermait le bal à la cour de Louis XIV et ne pouvait être dansée que par les princes et princesses de sang. Statistique, science qui recueille et analyse mathématiquement des données pour une évaluation numérique. C'est ce que fait l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Et en 2017, pour le magazine Le Plaisir Féminin, l'Institut a publié une enquête sur la branlette. Non, pas le terme de pêche, je parle bien de la masturbation. Ainsi, selon l'étude, 74% des femmes disaient en 2017 s'être déjà masturbées contre seulement 19% dans les années 70. Les hommes, eux, sont 95% à déclarer faire cela. Cette pratique est, rappelons-le, bénéfique pour la santé, car en ayant du plaisir, le pratiquant, attention, mot à prendre au sens de faire quelque chose, pas un croyant fidèle, quoique ce ne soit pas incompatible. Bref, le pratiquant sécrète de l'endorphine, l'hormone du bonheur. Troisième mot, tabou. En 2020, après le siècle des Lumières, celui des luttes sociales, de la libération de la femme, des genres, de la libération sexuelle, nous voilà encore dans un temps où parler de sexe se fait si le pas est franchi avec des pincettes ou en marchant sur des œufs, enfin s'il s'écrase ou vous en faites ce que vous voulez. Tabou, ce sur quoi on fait silence par crainte ou pudeur. Pudeur, sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve à faire, à envisager des choses de nature sexuelle. Gêne qui prouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire. Pourquoi devrions-nous avoir honte de notre sexualité, des sexualités ? Pourquoi faudrait-il taire et cacher une activité que l'humain pratique par nature ? Serait-ce indigne, l'aveu d'une faiblesse, que de succomber à ses désirs ? Faut-il voir cela comme une armure qui tombe ou bien comme une torche que l'on prend pour se saisir de la flamme ? Bien entendu, on ne demande pas de parler de sexualité à toutes les heures, mais si l'envie nous en prend d'ouvrir la conversation sur ce sujet, pourquoi s'y refuser et à parler, échanger, discuter ? Nous avons tellement à apprendre les uns des autres qu'en ne le faisant pas, nous nous privons d'une forme de connaissance. Des activités d'une personne qui concernent son activité, son intimité, pardon, sa vie sentimentale, familiale, sa santé, forment ce que nous nommons la vie privée. Ce terme, aussi paradoxal que cela puisse l'être, est protégé par nos instances publiques. Affirmé en 1948 par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la vie privée est protégée par le droit international. En France, elle entre dans le Code civil avec la loi du 17 juillet 1970. L'article 9 stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. L'inscription de la protection de la vie privée dans les textes français au début des années 70 n'est pas un hasard. Les premières dérives apparaissent avec les vedettes de cinéma qui reçoivent le rôle de star, personnes très connues qui soulèvent les foules, rôle autrefois joué par les rois et reines. Les premiers paparazzi apparaissent également, ces photographes à la recherche du scoop doivent leur nom, vous le savez sans doute, à Paparazzo, le jeune photographe qui seconde Marcello Mastroianni dans le film La Dolce Vita de Fellini sorti en 1960. Contraction de Papatacci, petit moustique, et Razzi, le flash en italien. La protection de la vie privée inclut donc celle du domicile, le secret professionnel et médical, la protection de l'intimité et les écoutes téléphoniques. Téléphone, lequel sert justement à utiliser les réseaux sociaux. Ce ne sont pas eux qui fragilisent le rapport de la vie privée, mais bien l'usage que nous en faisons. Ce vecteur de communication, nous nous le sommes emparés, d'abord par curiosité, puis par conformisme. Mon voisin utilise cela, si j'essayais, et en les utilisant, je deviens un modèle pour une autre personne, et ainsi de suite. Et enfin, car c'est entré dans la société, devenu un outil professionnel, parfois de normes sociales, sans lequel on pourrait se sentir exclu du groupe. Mais c'est bien la masse, la quantité d'usagers sans frontières territoriales et visuelles qui font qu'aujourd'hui nous nous retrouvons face à ce phénomène sans forcément l'avoir voulu. Avant tout moyen de communication, les réseaux sociaux agissent comme un amplificateur qui diffuserait bruyamment un message. Or, ce message est émis par un être humain qui, par nature, est imparfait. La connerie n'est jamais loin, elle fait partie de notre quotidien. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, elle est amplifiée. Au lieu d'être entendue et connue de quelques personnes, elle se diffuse rapidement des centaines, milliers de fois. Les populations actuelles ne sont pas plus bêtes qu'avant, nous le remarquons simplement plus. Car tout un chacun est désormais visible ou peut l'être. La connerie ne se trouve donc pas dans l'outil, les réseaux sociaux, mais bien dans l'usage que nous en faisons. Alors si je m'arrêtais là, vous auriez l'impression que je condamne tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Ce serait bien malhonnête de ma part, moi qui en fais un usage quotidien comme vous, chers auditeurs. Non, ce que je veux dire va plus loin. L'usage des réseaux sociaux implique une action de notre part, c'est-à-dire l'accomplissement d'une intention ou d'une impulsion par la réalisation d'un fait ou d'un geste. En agissant, nous produisons un acte, un effet, qui peuvent avoir des conséquences. Mais puisque nous sommes des humains qui vivent en société, nous avons grandi avec des règles, des normes, valeurs, voire une certaine morale. Notre éducation, l'enseignement reçu et notre statut de citoyen nous obligent et par là même induisent de nous la connaissance du droit, de la loi, seuls éléments légitimes sur lesquels nous, plus exactement des juges dans un cadre bien précis, pouvons juger des hommes et des femmes. Dès lors que nos actes ne sont pas contraires à ceux autorisés ou non interdits dans la loi, nous ne sommes coupables de rien. Ce qui fait de nous des adultes, des personnes libres, est cette connaissance-là. C'est bien parce que l'on consent que l'on peut agir sans contrainte, et non l'inverse. Une fois ce cadre-là posé, le tableau peut être fait. L'artiste choisit alors de représenter une nature morte ou l'origine du monde, peu importe. Si toutefois l'auteur n'a pas clairement autorisé la diffusion de son œuvre, alors la confiance est piétinée. Confiance, assurance, hardiesse, courage qui vient de la connaissance qu'on a de sa valeur, de sa chance. Bon, allez, j'arrête, je vais pas faire tous les mots du dictionnaire.